Il a été parlé cet après-midi des temps de la fin qui sont là et nous devons être prêts pour ces temps de la fin. Mais comment nous préparer? Savoir que nous sommes dans les temps de la fin et ne pas être prêts dans ces temps de la fin, c'est une catastrophe, n'est-ce pas? Et je crains fort que beaucoup ont leur tête remplie sur toutes sortes de choses qui vont arriver sur les temps de la fin, mais qui ne seront pas prêts. J'aimerais donc qu'on voit ensemble comment se préparer pour, dans ces temps difficiles que nous vivons. Et le titre de mon message sera « Les trois signes de la croissance spirituelle ». Si nous voulons être forts dans ces temps de la fin, nous devons croître spirituellement, nous devons grandir, nous devons devenir mûrs, adultes dans notre foi. Et j'aimerais donner trois signes de maturité spirituelle, trois signes de croissance spirituelle dans notre vie. Et au travers de ce message, nous verrons où nous en sommes réellement. Nous allons lire deux passages, si vous voulez bien maintenant. Le premier passage, c'est l'apôtre Pierre qui nous le donne, lorsqu'il parle aussi de croissance, dans sa dernière épître, dans sa deuxième épître, ce sont les dernières paroles qu'il adresse, comme pour dire, voilà des paroles importantes que je veux vous adresser. 2 Pierre, chapitre 3, versets 17 et 18. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, voyez-vous, une fois que nous sommes avertis, il y a quelque chose à faire, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. La volonté du Seigneur, c'est que nous croissions. Et surtout, dans les temps de la fin, comment croître? Voyons maintenant une autre parole de notre Seigneur dans l'Évangile selon Matthieu. Ce sont des passages bien connus, mais nous allons les lire maintenant. Matthieu, chapitre 5. Versets 43-48, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Et voilà le verset important maintenant, sur lequel nous allons dire quelques paroles. « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Il semble que cette dernière parole du Maître, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait », puisse nous faire frémir. Car qui peut être parfait? On a l'impression que le Seigneur nous demande quelque chose qui est au-delà de nos possibilités. Mais si nous comprenons ce que signifie le mot « parfait » ici, alors il y aura comme un soulagement dans nos cœurs. Le mot « parfait » n'est pas toujours ce que nous pensons. Quand Jésus dit « soyez parfaits », cela ne veut pas dire qu'il faut absolument qu'il n'y ait rien à redire dans votre vie. Car je ne sais pas si ce jour arrivera. Il y aura toujours quelque chose qui ne sera pas parfait en nous. Le Seigneur est réaliste et il le sait. Que veut-il donc dire? Le mot parfait dans le texte grec ici veut dire adulte, mûr. Jésus voulait donc dire soyez mûr, soyez adulte, soyez des hommes faits. Comme votre Père céleste est adulte, il est plein de maturité. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Soyez adultes, soyez mûrs. Voilà pourquoi nous allons voir maintenant les trois signes de la maturité spirituelle. Comment savoir si je suis mûr? Comment savoir si je suis ce que le Seigneur veut que je sois? Voyons donc ces trois signes maintenant. C'est comme un examen de conscience que nous allons passer. Mais ce qui est merveilleux, c'est que si tout ne va pas toujours comme il le faut, notre professeur, lui, ne nous abandonnera pas, et ce qu'il a commencé en nous, il l'achèvera. Peut-être que certains vous ont déjà abandonné et ont dit que votre cas est incurable. Mais le divin professeur n'a pas dit son dernier mot. Et celui qui a dit à Pierre, « Je ferai de toi un pécheur d'hommes » a tenu promesse. Et cependant, Pierre a dû passer par toutes sortes d'épreuves, n'est-ce pas? Il était loin d'être parfait. Il était à bien des égards encore comme un enfant. Mais le Seigneur, comme un bon professeur, voulait que son disciple, son élève, apprenne des leçons. Le Seigneur, comme un bon père, voulait que son enfant devienne un fils. Soyez donc mûrs, adultes. Quels sont donc ces trois signes? Les voilà. Le premier signe est celui-ci. Un homme adulte, une personne adulte, s'accepte comme Dieu l'a fait. Voilà un signe de maturité spirituelle dans notre vie. Je répète cette pensée qui est très importante. Et le fait de ne pas tenir compte de cette parole, il y a des naufrages dans beaucoup de vies et même dans des vies chrétiennes. Une personne adulte, c'est une personne qui s'accepte comme Dieu l'a fait. Combien d'entre nous, nous ne sommes pas bien dans notre peau? Combien d'entre vous, si on vous posait la question, s'il fallait que Dieu vous crée à nouveau, vous auriez aimé qu'il vous fasse autrement? N'est-ce pas vrai? Hein, beaucoup? Oh! Si moi-même j'avais eu le choix, je me ferais différemment. Je ne peux pas me sentir. C'est un peu le langage de beaucoup de personnes dans le monde, mais malheureusement de beaucoup de personnes dans l'Église aussi. Combien de chrétiens ne s'acceptent pas? Bien sûr, il y a des raisons pour cela. Il y a des causes pour cela. Voyons quelques causes. Pourquoi est-ce que certains d'entre nous, nous avons de la peine à nous accepter tel que Dieu nous a fait? Une des causes est celle-ci. Et ça remonte toujours à l'enfance, bien souvent. Par exemple, lorsqu'une maman ne veut pas de son enfant qui est dans son sein, cet enfant-là aura de graves problèmes dans ce domaine-là. Cet enfant qui n'a pas été désiré, toute sa vie aura ce sentiment d'être rejeté. Il faudra un miracle du Seigneur. Et le miracle du Seigneur est possible. Alléluia! Mais seul un miracle peut faire cela. Mais combien de personnes ont été ainsi rejetées dès le sein de leur mère. Et ils vous disent, je ne me sens pas accepté, je me sens rejeté jusque chez moi, jusque dans ma maison. Et même des parents font de graves erreurs en faisant des différences, par exemple, avec leurs enfants. Oh, mon aîné, il est formidable. Mais toi, le gamin, là, tu t'en sortiras jamais. Regarde un petit peu ce que ton frère et ta sœur est. Tu devrais prendre exemple sur lui ou sur elle. Mais toi, tu ne vaux rien. Les parents disent cela, soi-disant, pour aider l'enfant. Mais loin d'aider l'enfant, nous mettons en lui un sentiment de rejet. L'enfant se sent rejeté. Et aller guérir cela, vous ne pouvez pas. Je le dis, il n'y a que le Seigneur qui peut guérir cela. Vous pouvez dépenser des milliers et des millions de francs, j'allais dire, auprès des psychologues, auprès de n'importe qui. Ils ne pourront pas vous guérir efficacement. Une personne adulte est une personne qui s'accepte telle que Dieu l'a fait. Non seulement on se sent rejeté dans la famille, mais on se sent aussi rejeté ou pas accepté dans la société. Il n'y en a pas au milieu de nous qui n'ait pas fait une expérience négative et douloureuse dans ce domaine-là. Est-ce que vous n'avez pas été rejeté par au moins une personne dans la société? Dites-moi. Je suis persuadé que tous. Personnellement, où j'ai ressenti la plus grande douleur, c'était lorsque j'allais à l'école. Un professeur m'a fait sentir, pas directement, mais indirectement, qu'il ne m'acceptait pas, je ne sais pas à cause de quoi. Il est vrai que je n'étais pas une perle à l'école. Il avait peut-être des raisons, finalement, ça me permet de lui pardonner plus facilement. Mais en attendant, le mal était fait. Se sentir rejeté par un professeur, n'est-ce pas quelque chose de terrible? Mais combien d'entre nous, peut-être, vous avez fait cette expérience? Un prof qui élève ceux qui ont la tête grosse comme ça, et l'autre qui a de la peine à suivre, il ne vaut rien du tout, et le prof le fait sentir. C'est peut-être à l'école, ou c'est peut-être à l'usine, c'est peut-être à ton travail aussi, où ton patron fait constamment ses remarques. Regarde celui-ci, regarde celle-là, mais toi tu n'es rien du tout. Et on se sent rejeté. Il y a un autre domaine où l'homme aussi se sent rejeté. Et c'est un domaine où l'homme ne devrait pas se sentir rejeté. C'est dans l'église. Dans l'église. Là où on devrait se sentir, où l'on devrait se sentir aimé, accepté, bien souvent c'est dans l'église qu'on est rejeté par l'un ou par l'autre. Là aussi vous avez fait vos expériences, n'est-ce pas vrai? C'est douloureux, ce sont des expériences qui nous marquent. Quand nous ne sommes pas acceptés par quelqu'un, par ses parents, par des amis, par quelqu'un d'autre, je ne sais, c'est vraiment quelque chose qui nous brise et qui peut briser la vie de quelqu'un. Mais l'évangile est un évangile de délivrance. Un homme adulte, c'est quelqu'un qui s'accepte tel qu'il est. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si nous sommes rejetés par les hommes, ou par les membres de sa famille, ou par ceux qu'on aime le plus, nous ne sommes pas rejetés par le Seigneur. Au contraire, lorsqu'on accepte Jésus-Christ dans sa vie, on est accepté en Jésus-Christ. Et Éphésiens chapitre 1, verset 6, nous donne une pensée extraordinaire. Il est dit qu'il nous a fait la grâce d'être accepté en Jésus-Christ. Dans nos versions, cela n'est pas assez fort, mais dans le texte grec, quand il est dit que Dieu nous a fait la grâce en Jésus-Christ, le mot grâce veut dire faveur exceptionnelle. Cas spécial. C'est-à-dire que il nous a fait une faveur, il nous a hautement favorisé en Christ. Et ce mot grâce dans l'épître aux Éphésiens est le même mot qui se retrouve au sujet de Marie. Qu'est-ce que l'ange a dit à Marie? Vous vous souvenez? Je te salue, toi, Marie, à qui une grâce a été faite. Une grâce. Et le mot grâce, ici, veut dire faveur exceptionnelle. Mais savez-vous qu'il n'y a pas que Marie qui a eu cette faveur exceptionnelle? Bien sûr, elle a eu cette faveur pour recevoir en son sein le Fils, Saint de Dieu. Mais une faveur aussi nous a été accordée à nous qui avons reçu Jésus-Christ dans notre cœur. Alléluia! C'est la même faveur, ce qui fait que lorsque nous acceptons Jésus, nous sommes honorés. Vous savez, souvent on voit dans les hôpitaux, à l'entrée d'une porte, soins intensifs. C'est ce que cela veut dire, la grâce de Dieu. Nous sommes aux soins intensifs du Seigneur. Je trouve que c'est pas mal ça. C'est cela la grâce. C'est trop soin intensif, soin spéciaux. Le Seigneur s'occupe de nous. Le Seigneur s'intéresse à nous. Nous ne sommes plus rejetés. Nous ne sommes plus des nuls à ses yeux. Mais nous sommes aux soins intensifs. Jour et nuit, il veille sur nous. Alléluia. Un jour, un prédicateur allait pour prêcher. Et tout à coup, avant d'aller sur l'estrade, une dame arrive. Monsieur le pasteur, je voulais justement vous voir depuis longtemps. J'ai un problème. Ah, le prédicateur dit, mais s'il vous plaît, je vous donne 2 minutes, je dois prêcher. C'est pas le moment d'avoir un entretien. 2 minutes. Cette dame a commencé à ouvrir son cœur. Au bout de 30 secondes, le pasteur a dit, arrêtez. J'ai compris. Je sais quel est votre problème. Vous avez le sentiment d'être rejeté. Voulez-vous qu'on prie ensemble? Alors, ils ont commencé à prier. Et le pasteur a dit, répétez après moi cette prière. Ô Seigneur, tu es mon Père et je suis ton enfant. Je suis accepté dans la famille de Dieu. Le ciel est ma maison. Les anges sont mes gardiens. Je suis aimé du Seigneur. Je suis aux soins intensifs du Seigneur. Le Seigneur s'intéresse à moi. Voilà ce qu'elle devait dire. Et après, amen, et puis il est parti. Un mois après, il reçoit une lettre. Monsieur le pasteur, un miracle s'est passé. Je ne suis plus la même personne. Je vois les choses différemment désormais. Quelle était la différence? Elle se sentait rejetée par les hommes, mais il fallait qu'elle sache qu'elle était hautement honorée et favorisée aux yeux de Dieu. Amen. Et cela, vous devez l'accepter par la foi. N'essayez pas de sentir ces choses. Beaucoup d'entre nous, nous vivons de sentiments. Et comme je le dis bien souvent, le sentiment toujours. Mais oui, le sentiment toujours. Parce qu'un jour, vous dites, oh là là, aujourd'hui, pendant cette retraite, c'est formidable. Oh, j'ai senti l'amour de Dieu. J'ai senti que Dieu m'aimait. C'était formidable. Vous arrivez à la maison, vous ne sentez plus rien. Et puis vous dites, mais c'est pas possible. Le Seigneur ne m'aime plus. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous vivons de sentiments. Cette parole est vraie, que vous le sentiez ou pas. Vous êtes aimé, vous êtes aux soins intensifs. Alléluia. Amen. Soins intensifs. Hein? À chaque instant, il y a une infirmière qui est là. Comment ça va? Oui. À peine sortie, une autre infirmière arrive. Alors, vous savez, les soins intensifs, c'est pas seulement une infirmière qui vous garde. Il y en a plusieurs infirmières et des spécialistes. Et laissez-moi vous dire une chose, il n'y a pas seulement un docteur qui vous soigne. Il y en a plusieurs, des spécialistes. Regardez-moi ça. Vous vous rendez compte? Pour une personne, autant d'infirmières et autant de docteurs, autant de professeurs. Pour une personne, soins intensifs. C'est cela la grâce de Dieu. Nous sommes aux soins intensifs du Seigneur. Le croyons-nous? C'est une parole que nous devons croire. Ne dites pas, oh, c'est si beau. Mais vous savez, c'est trop beau pour être vrai ce que vous dites. C'est trop beau pour être vrai. Mais laissez-moi dire une chose, c'est beau et c'est vrai en même temps. Nous sommes acceptés. Je l'accepte par la foi, tout simplement. Et lorsque nous l'acceptons par la foi, c'est alors que nous commençons à réaliser, à expérimenter ces choses. Mais tant que nous ne le prenons pas, pas par la foi. Ces choses sont pour nous comme un langage barbare. Nous ne saisissons pas ces choses. Acceptez. Nous sommes acceptés, honorés. Et vous savez, si vous n'acceptez pas cela, si vous n'acceptez pas ce que vous êtes aux yeux de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous comparer aux autres. Et c'est là le problème de beaucoup d'entre nous. Du matin au soir, nous nous comparons aux autres. Puisque nous ne croyons pas que Dieu nous a acceptés, puisque nous ne nous acceptons pas nous-mêmes, nous n'acceptons pas les autres. Et vous aurez toujours des problèmes avec les autres, tant que vous ne vous acceptez pas vous-même. Et vous serez toujours en train de vous comparer. Savez-vous qu'il y a le péché de la comparaison? Là, lorsqu'on commence à se comparer, il y a deux conséquences tragiques. Écoutez-moi bien maintenant. Lorsque vous vous comparez à quelqu'un, premièrement, vous trouvez toujours quelqu'un qui est meilleur que vous. C'est pas vrai? Alors vous vous comparez à quelqu'un qui est meilleur que vous, quel est le résultat? Découragement et condamnation. Vous vous condamnez et vous dites, c'est pas possible, tu te rends compte? Regarde celle-là, elle au moins c'est quelqu'un. Lui là, monsieur, là lui c'est quelqu'un. Vous vous comparez à quelqu'un qui est supérieur à vous. Résultat, vous vous sentez condamné. Cette condamnation ne vient pas du Seigneur. Car Romains 8, 1 nous le dit bien, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia! Et il y a donc maintenant, pas lorsque nous serons au ciel. Combien le disent, mais oh là là, mais oui frère, mais je crois tout ce que vous dites, mais au ciel, toutes ces choses sont vraies. Au ciel, il n'y aura plus de condamnation. Mais j'espère bien qu'il n'y aura pas de condamnation au ciel. Parce qu'alors, s'il y a encore de la condamnation au ciel, à quoi ça sert d'être délivré de la condamnation là-haut? C'est maintenant que nous en avons besoin, n'est-ce pas vrai? C'est maintenant que Dieu vous libère de cette condamnation. Si vous vous comparez à quelqu'un qui est supérieur à vous, vous vous sentirez toujours condamné. Deuxième conséquence maintenant. Vous vous comparez maintenant à quelqu'un qui est inférieur à vous. Et quel est le résultat? Ah, vous comprenez, n'est-ce pas? Ah, le résultat, c'est que l'autre, c'est un pauvre type. C'est un raté. Vous lui dites, excuse-moi, qu'est-ce que tu veux, moi j'ai un complexe de supériorité. Qu'est-ce que c'est malgré moi, tu vois, je me sens toujours un peu plus que les autres. Vous vous comparez à quelqu'un d'inférieur, et c'est l'orgueil qui commence à être nourri en vous. Et si vous gardez cette attitude que nous dit la Bible, l'orgueil précède la chute. Si nous restons dans un tel esprit, tout à notre orgueil nous conduira à la destruction. Il ne faut pas se comparer à qui que ce soit. Vous êtes unique aux yeux de Dieu. Il n'y en a pas deux comme vous. J'ai de la peine à faire accepter cela, mes enfants. Quand je dis, par exemple, à Jonathan, le dernier, je lui dis, mais Jonathan, tu sais qu'il n'y a qu'un Jonathan dans le monde. Il me dit, non, c'est pas vrai, il y en a d'autres qui s'appellent Jonathan. Comment je vais faire? Ah, j'ai dit, c'est vrai, il y a d'autres Jonathan, mais Jonathan à Zaccordien, il n'y en a qu'un. Mais il me dit, mais il y a peut-être un autre à Zaccordien aussi, qui s'appelle Jonathan à Zaccordien. Voyez-vous, le combat, la difficulté de faire, d'inculquer à l'enfant qu'il est unique. Alors après, je lui donne un petit surnom. Le dernier qu'on a trouvé, c'est Hus. Latinus, Hus. Alors j'ai dit, tu vois, il n'y a qu'un Hus maintenant dans le monde, c'est toi. Alors là, il ne dit plus rien. Parce que comme c'est un surnom, alors il pense que les autres n'ont pas ce surnom-là. J'ai trouvé un petit truc, enfin, il n'est pas formidable. Hein. Au moins, j'essaye de lui faire admettre qu'il est unique. Savez-vous que vous êtes unique? Cette vérité devrait nous libérer complètement. Vous êtes unique. Vous n'avez pas à vous comparer aux autres. N'essaye pas de te comparer. N'essaye pas de dire l'autre est supérieur, l'autre est inférieur. Tu es unique. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Alléluia, tu as du prix. Celle-là aussi, c'est une parole que nous acceptons par la foi. Parce que c'est le prophète Esaïe qui nous dit que nous avons du prix à ses yeux. Mais comment comprendre et accepter une telle parole? Mais ce n'est pas possible. Comme je me connais, est-ce possible que Dieu dise la vérité? Il y a tant de choses qui sont mauvaises en moi. Est-ce possible que j'ai encore du prix à ses yeux? Alors que je ne vaux plus rien aux yeux des hommes, est-ce possible qu'aux yeux de Dieu, j'ai encore de la valeur? Il y a là un combat, n'est-ce pas vrai? C'est vrai, chers amis. Mais là, la foi doit remporter la victoire sur le raisonnement. Nous ne nous connaissons pas tels que nous sommes. Nous ne connaissons pas exactement ce que Dieu pense de nous. Lui seul peut dire la vérité. Et lorsqu'il dit que nous avons du prix à ses yeux, c'est la vérité. Amen. Et vous, si vous connaissez la vérité vous affranchira. Merci Seigneur. Un homme adulte, c'est un homme qui s'accepte tel que Dieu l'a fait. Ça, c'est un signe de maturité. Premièrement, il est accepté. Et deuxièmement, toujours dans ces premiers signes, c'est une deuxième pensée. Cet homme est capable. Premièrement, il est honoré. Et deuxièmement, il est capable. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est le problème avec beaucoup d'entre nous. Nous réalisons tous notre incapacité. Mais la parabole de Matthieu 25 sur les talents vient nous donner une espérance et une parole de délivrance. Avez-vous remarqué que le Seigneur dit qu'à l'un il a donné 5 talents, à l'autre combien? 2 talents, et à l'autre 1 talent, selon leur incapacité. Comment? Ah oui, parce que si c'était moi qui devais dire cela, ou si c'était un homme d'aujourd'hui, il dirait exactement cela. 5, 2, 1, alors ça va en descendant. Donc c'est des talents selon l'incapacité de la personne. Mais le Seigneur, voyez-vous qu'il est au-dessus de toutes ces logiques. Et il dit à l'un 5, à l'autre 2 et à l'autre 1, selon sa capacité. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'aux yeux de Dieu, tous ceux qui ont accepté le Seigneur, tous ceux qui sont honorés, voyez-vous, tous ceux qui sont aux soins intensifs, sont capables. Capables d'accomplir ce que Dieu leur demande. Il n'y a pas d'incapables dans son Église. Vous avez manqué une bonne occasion de dire Alléluia. Je le répète, comme ça vous pourrez vous racheter. Il n'y a pas d'incapable dans son Église. Ce n'est pas moi qui vous le dis. Il a l'un 5, à l'autre 2 et à l'autre 1, selon sa capacité. Il n'y a que des capables. N'est-ce pas merveilleux? Vous qui êtes accepté, vous qui êtes honoré, vous êtes aussi capable. Voulez-vous le croire? Capable d'être un bon mari. Capable d'être une bonne maman. Capable d'être de bons enfants. Capable d'aimer tes ennemis, capable de pardonner, capable d'accomplir ta tâche. Tu es capable. Et si tu dis que tu es incapable, tu fais Dieu menteur. Et voilà pourquoi tu ne t'en sors pas. Selon son incapacité. Ne pense pas que celui qui a 5 talents, et toi tu as un talent, que l'autre est formidable, que l'autre est quelqu'un d'extraordinaire, à tes yeux peut-être, mais pas aux yeux de Dieu. La preuve. C'est que lorsque nous lisons Matthieu 25 un peu plus loin, le temps des récompenses arrive. Et vous savez ce qu'il est dit? À celui qui a 5 talents et qui a gagné 5 autres talents, que lui dit le maître? Cela va bien, bon et fidèle serviteur, tu as gagné 5 talents. Cela va bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle sur peu de choses. Entre dans la joie de ton maître. Tu as été fidèle sur peu de choses. Comment? Il a 5 talents et le Seigneur dit qu'il est fidèle sur peu de choses. Et à celui qui avait 2 talents, que lui dit le maître? Tu as été fidèle sur peu de choses, entre dans la joie de ton maître. Voyez-vous, Dieu ne voit pas les choses comme nous les voyons. Même celui qui a 5 talents et 2 talents et qui s'enorgueillit bien souvent et qui se prend pour quelqu'un d'extraordinaire, En vérité, il n'est pas extraordinaire aux yeux de Dieu. Sur peu de choses aux yeux de Dieu. Cette vérité devrait nous humilier, n'est-ce pas? Et encourager tous ceux qui ont un talent. Car dans l'Église, beaucoup se disent à n'avoir qu'un talent. Le problème n'est pas avec ceux qui ont cinq talents ou deux talents. Le problème dans les églises est avec ceux qui n'ont qu'un talent et qui vont le cacher en terre. Seigneur, je suis honoré et je suis capable. Alléluia. Deuxième signe maintenant de croissance ou de maturité spirituelle. Une personne adulte apprend des leçons de ses échecs. Voilà un autre signe de maturité. C'est une personne qui, au travers de ses échecs, apprend toujours une leçon. Combien d'entre nous, nous sommes paralysés par nos échecs? Et qui n'a pas eu d'échecs? Et à cause de cela, nous n'en sortons pas. Nous n'en sortons plus. Mais un homme mûr, c'est un homme qui sait apprendre des leçons de ses échecs. Savez-vous que l'échec est le chemin du succès? Amen. Je crois que c'est une bonne parole d'encouragement. L'échec est le chemin du succès. Parce que lorsque l'échec est accepté de la bonne façon, l'échec peut accomplir des miracles dans notre vie. Car le succès peut être un grand danger. Et un très grand danger, un danger plus grand que l'échec. Beaucoup ont été fidèles quand tout allait bien. Je m'entends par là, quand, oui, il y avait des échecs, des difficultés. Mais le jour où il y a eu le succès, ils n'ont pas pu supporter le test du succès et de la puissance. Certains, ce ne sont pas les péchés qui les font tomber. C'est le succès. C'est la bénédiction qui les font tomber. Vous dites, mais c'est pas possible. Comment est-ce que la bénédiction peut faire tomber quelqu'un? Bien naturellement, c'est pas la bénédiction elle-même. Mais c'est notre réaction à la bénédiction qui fait que nous ne supportons pas cette bénédiction. Mais si nous savons apprendre de nos échecs des leçons, alors nous manifestons une maturité spirituelle. Quels sont les dangers du succès? J'en ai noté plusieurs ici. Quand un homme a du succès, le succès nous donne premièrement une grande confiance en soi-même. N'est-ce pas vrai? Quand quelqu'un a du succès, hein, il n'y a que lui, n'est-ce pas? Imbu de lui-même. Mais vous ne savez pas qui je suis. Mais s'il vous plaît, vous ne savez pas à qui vous parlez, là, monsieur. Avant de partir, je vais vous glisser ma carte de visite. Il faut un petit peu savoir à qui vous parlez, n'est-ce pas? Le succès nous donne d'être trop confiants en soi-même. Vous vous rappelez de Pierre, n'est-ce pas? Si tous t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai point. Et il est tombé lui-même dans le panneau. Ce qu'il pensait qu'il n'allait jamais faire, il l'a précisément fait. C'est le succès. Le succès nous donne une fausse confiance en nous-mêmes. Quand il y a l'échec, il y a comme un brisement, n'est-ce pas vrai? Jacob est devenu un Israël, un vainqueur de Dieu. Seulement le jour où il a été touché à la hanche, seulement le jour où il a été brisé, Pierre est devenu l'apôtre entre les mains de Dieu, seulement le jour où il a été brisé. Alors Dieu l'a pu l'utiliser. L'échec nous donne de réaliser que nous ne sommes rien du tout.
Et ça, c'est quelque chose à expérimenter aussi. Mais nous tiendrons le coup. Lorsque nous passerons par ce chemin de brisement, pourquoi est-ce que nous tiendrons le coup? Parce que, humainement, nous devons être brisés. Mais aux yeux de Dieu, nous sommes encore acceptés. Nous sommes encore aimés. Nous sommes encore honorés à ses yeux. Lorsque je corrige mon enfant, est-ce parce que je ne l'aime pas? Loin de là. C'est peut-être parce que je l'aime beaucoup. Ne pense pas que si tu passes par ce chemin du brisement, que Dieu ne t'aime plus. Dans ce chemin douloureux du brisement, de la solitude, rappelle-toi une chose. Le Seigneur t'aime, tu es honoré à ses yeux, mais il faut que tu passes par là. L'échec, l'école de l'échec est indispensable. Dans le collège de la victoire, il y a la classe de l'échec. As-tu passé par la classe de l'échec? Dans le collège de la victoire. Alléluia. Il est indispensable pour toi que tu passes par ce chemin-là. Le succès fait encore autre chose. Le succès nous rend paresseux. N'est-ce pas vrai? Quand tout va très bien, on commence à se reposer un peu sur ses lauriers. C'est ce qui s'est passé avec David. Quand est-ce qu'il est tombé, David? Quand il était au combat? Pas du tout. Il est indispensable pour toi que tu passes par ce chemin-là. Le succès fait encore autre chose. Le succès nous rend paresseux. N'est-ce pas vrai? Quand tout va très bien, on commence à se reposer un peu sur ses lauriers. C'est ce qui s'est passé avec David. Quand est-ce qu'il est tombé, David? Quand il était au combat? Pas du tout. Il est indispensable pour toi que tu passes par ce chemin-là. Le succès fait encore autre chose. Le succès nous rend paresseux. N'est-ce pas vrai? Quand tout va très bien, on commence à se reposer un peu sur ses lauriers. C'est ce qui s'est passé avec David. Quand est-ce qu'il est tombé, David? Quand il était au combat? Pas du tout. Il est indispensable pour toi que tu passes par ce chemin-là. Le succès fait encore autre chose. Le succès nous rend paresseux. N'est-ce pas vrai? Quand tout va très bien, on commence à se reposer un peu sur ses lauriers. C'est ce qui s'est passé avec David. Quand est-ce qu'il est tombé, David? Quand il était au combat? Pas du tout. Il est indispensable pour toi que tu passes par ce chemin-là. Le succès fait encore autre chose. Le succès nous rend paresseux. N'est-ce pas vrai? Quand tout va très bien, on commence à se reposer un peu sur ses lauriers. C'est ce qui s'est passé avec David. Quand est-ce qu'il est tombé, David? Quand il était au combat? Pas du tout. Il est indispensable pour toi que tu passes par ce chemin-là. Le succès fait encore autre chose. Le succès nous rend paresseux. N'est-ce pas vrai? Quand tout va très bien, on commence à se reposer un peu sur ses lauriers. C'est ce qui s'est passé avec David. Quand est-ce qu'il est tombé, David? Quand il était au combat? Pas du tout. Il est indispensable pour toi que tu passes par ce chemin-là. Le succès fait encore autre chose. Le succès nous rend paresseux. N'est-ce pas vrai? Quand tout va très bien, on commence à se reposer un peu sur ses lauriers. C'est ce qui s'est passé avec David. Quand est-ce qu'il est tombé, David? Quand il était au combat? Pas du tout. Il est indispensable pour toi que tu passes par ce chemin-là. Le succès fait encore autre chose. Le succès nous rend paresseux. N'est-ce pas vrai? Quand tout va très bien, on commence à se reposer un peu sur ses lauriers. C'est ce qui s'est passé avec David. Quand est-ce qu'il est tombé, David? Quand il était au combat? Pas du tout. Il est indispensable pour toi que tu passes par ce chemin-là. Le succès fait encore autre chose. Le succès nous rend paresseux. N'est-ce pas vrai? Quand tout va très bien, on commence à se reposer un peu sur ses lauriers. C'est ce qui s'est passé avec David. Quand est-ce qu'il est tombé, David? Quand il était au combat? Pas du tout. Il est indispensable pour toi que tu passes par ce chemin-là. Le succès fait encore autre chose. Le succès nous rend paresseux. N'est-ce pas vrai? Quand tout va très bien, on commence à se reposer un peu sur ses lauriers. C'est ce qui s'est passé avec David. Quand est-ce qu'il est tombé, David? Quand il était au combat? Pas du tout. Il est indispensable pour toi que tu passes par ce chemin-là. Le succès fait encore autre chose. Le succès nous rend paresseux. N'est-ce pas vrai? Quand tout va très bien, on commence à se reposer un peu sur ses lauriers. C'est ce qui s'est passé avec David. Quand est-ce qu'il est tombé, David? Quand il était au combat? Pas du tout. Il est indispensable pour toi que tu passes par ce chemin-là. Le succès fait encore autre chose. Le succès nous rend paresseux. N'est-ce pas vrai? Quand tout va très bien, on commence à se reposer un peu sur ses lauriers. C'est ce qui s'est passé avec David. Quand est-ce qu'il est tombé, David? Quand il était au combat? Pas du tout. Il est indispensable pour toi que tu passes par ce chemin-là. Le succès fait encore autre chose. Le succès nous rend paresseux. N'est-ce pas vrai? Quand tout va très bien, on commence à se reposer un peu sur ses lauriers. C'est ce qui s'est passé avec David. Quand est-ce qu'il est tombé, David? Quand il était au combat? Pas du tout. Il est indispensable pour toi que tu passes par ce chemin-là. Le succès fait encore autre chose. Le succès nous rend paresseux. N'est-ce pas vrai? Quand tout va très bien, on commence à se reposer un peu sur ses lauriers. C'est ce qui s'est passé avec David. Quand est-ce qu'il est tombé, David? Quand il était au combat? Pas du tout. Il est indispensable pour toi que tu passes par ce chemin-là. Le succès fait encore autre chose. Le succès nous rend paresseux. N'est-ce pas vrai? Quand tout va très bien, on commence à se reposer un peu sur ses lauriers. C'est ce qui s'est passé avec David. Quand est-ce qu'il est tombé, David? Quand il était au combat? Pas du tout. Il est indispensable pour toi que tu passes par ce chemin-là. Le succès fait encore autre chose. Le succès nous rend paresseux. N'est-ce pas vrai? Quand tout va très bien, on commence à se reposer un peu sur ses lauriers. C'est ce qui s'est passé avec David. Quand est-ce qu'il est tombé, David? Quand il était au combat? Pas du tout. Il est indispensable pour toi que tu passes par ce chemin-là. Le succès fait encore autre chose. Le succès nous rend paresseux. N'est-ce pas vrai? Quand tout va très bien, on commence à se reposer un peu sur ses lauriers. C'est ce qui s'est passé avec David. Quand est-ce qu'il est tombé, David? Quand il était au combat? Pas du tout. Il est indispensable pour toi que tu passes par ce chemin-là. Le succès fait encore autre chose. Le succès nous rend paresseux. N'est-ce pas vrai? Quand tout va très bien, on commence à se reposer un peu sur ses lauriers. C'est ce qui s'est passé avec David. Quand est-ce qu'il est tombé, David? Quand il était au combat? Pas du tout. Il est indispensable pour toi que tu passes par ce chemin-là. Le succès fait encore autre chose. Le succès nous rend paresseux. N'est-ce pas vrai? Quand tout va très bien, on commence à se reposer un peu sur ses lauriers. C'est ce qui s'est passé avec David. Quand est-ce qu'il est tombé, David? Quand il était au combat? Pas du tout. Il est indispensable pour toi que tu passes par ce chemin-là.
Le succès fait encore autre chose. Le succès nous rend paresseux. N'est-ce pas vrai? Quand tout va très bien, on commence à se reposer un peu sur ses lauriers. C'est ce qui s'est passé avec David. Quand est-ce qu'il est tombé, David? Quand il était au combat?
Pas du tout.
Il est indispensable pour toi que tu passes par ce chemin-là. Le succès fait encore autre chose. Le succès nous rend paresseux. N'est-ce pas vrai? Quand tout va très bien, on commence à se reposer un peu sur ses lauriers. C'est ce qui s'est passé avec David. Quand est-ce qu'il est tombé, David?
Quand il était au combat?
Pas du tout.
Il est indispensable pour toi que tu passes par ce chemin-là. Le succès fait encore autre chose. Le succès nous rend paresseux. N'est-ce pas vrai? Quand tout va très bien, on commence à se reposer un peu sur ses lauriers. C'est ce qui s'est passé avec David. Quand est-ce qu'il est tombé, David?
Quand il était au combat?
Pas du tout.
Il est indispensable pour toi que tu passes par ce chemin-là. Le succès fait encore autre chose. Le succès nous rend paresseux. N'est-ce pas vrai? Quand tout va très bien, on commence à se reposer un peu sur ses lauriers. C'est ce qui s'est passé avec David. Quand est-ce qu'il est tombé, David?
Quand il était au combat?
Pas du tout.
Il est indispensable pour toi que tu passes par ce chemin-là. Le succès fait encore autre chose. Le succès nous rend paresseux. N'est-ce pas vrai? Quand tout va très bien, on commence à se reposer un peu sur ses lauriers. C'est ce qui s'est passé avec David. Quand est-ce qu'il est tombé, David?
Quand il était au combat?
Pas du tout.
Il est indispensable pour toi que tu passes par ce chemin-là. Le succès fait encore autre chose. Le succès nous rend paresseux. N'est-ce pas vrai? Quand tout va très bien, on commence à se reposer un peu sur ses lauriers. C'est ce qui s'est passé avec David. Quand est-ce qu'il est tombé, David?
Quand il était au combat?
Pas du tout.
Il est indispensable pour toi que tu passes par ce chemin-là. Le succès fait encore autre chose. Le succès nous rend paresseux. N'est-ce pas vrai? Quand tout va très bien, on commence à se reposer un peu sur ses lauriers. C'est ce qui s'est passé avec David. Quand est-ce qu'il est tombé, David?
Quand il était au combat?
Pas du tout.
Il est indispensable pour toi que tu passes par ce chemin-là. Le succès fait encore autre chose. Le succès nous rend paresseux. N'est-ce pas vrai? Quand tout va très bien, on commence à se reposer un peu sur ses lauriers. C'est ce qui s'est passé avec David. Quand est-ce qu'il est tombé, David?
Quand il était au combat?
Pas du tout.
Il est indispensable pour toi que tu passes par ce chemin-là. Le succès fait encore autre chose. Le succès nous rend paresseux. N'est-ce pas vrai? Quand tout va très bien, on commence à se reposer un peu sur ses lauriers. C'est ce qui s'est passé avec David. Quand est-ce qu'il est tombé, David?
Quand il était au combat?
Pas du tout.
Il est indispensable pour toi que tu passes par ce chemin-là. Le succès fait encore autre chose. Le succès nous rend paresseux. N'est-ce pas vrai? Quand tout va très bien, on commence à se reposer un peu sur ses lauriers. C'est ce qui s'est passé avec David. Quand est-ce qu'il est tombé, David?
Quand il était au combat?
Pas du tout.
Il est indispensable pour toi que tu passes par ce chemin-là. Le succès fait encore autre chose. Le succès nous rend paresseux. N'est-ce pas vrai? Quand tout va très bien, on commence à se reposer un peu sur ses lauriers. C'est ce qui s'est passé avec David.
Quand est-ce qu'il est tombé, David? Quand il était au combat?
Pas du tout.
Il est indispensable pour toi que tu passes par ce chemin-là. Le succès fait encore autre chose. Le succès nous rend paresseux. N'est-ce pas vrai? Quand tout va très bien, on commence à se reposer un peu sur ses lauriers. C'est ce qui s'est passé avec David. Quand est-ce qu'il est tombé, David? Quand il était au combat?
Pas du tout.
Il est indispensable pour toi que tu passes par ce chemin-là. Le succès fait encore autre chose. Le succès nous rend paresseux. N'est-ce pas vrai? Quand tout va très bien, on commence à se reposer un peu sur ses lauriers. C'est ce qui s'est passé avec David. Quand est-ce qu'il est tombé, David? Quand il était au combat?
Pas du tout.
Il est indispensable pour toi que tu passes par ce chemin-là. Le succès fait encore autre chose. Le succès nous rend paresseux. N'est-ce pas vrai? Quand tout va très bien, on commence à se reposer un peu sur ses lauriers. C'est ce qui s'est passé avec David. Quand est-ce qu'il est tombé, David? Quand il était au combat?
Pas du tout.
Il est indispensable pour toi que tu passes par ce chemin-là. Le succès fait encore autre chose. Le succès nous rend paresseux. N'est-ce pas vrai? Quand tout va très bien, on commence à se reposer un peu sur ses lauriers. C'est ce qui s'est passé avec David. Quand est-ce qu'il est tombé, David? Quand il était au combat?
Pas du tout.
Il est indispensable pour toi que tu passes par ce chemin-là. Le succès fait encore autre chose. Le succès nous rend paresseux. N'est-ce pas vrai? Quand tout va très bien, on commence à se reposer un peu sur ses lauriers. C'est ce qui s'est passé avec David. Quand est-ce qu'il est tombé, David? Quand il était au combat?
Pas du tout.
Il est indispensable pour toi que tu passes par ce chemin-là. Le succès fait encore autre chose. Le succès nous rend paresseux. N'est-ce pas vrai? Quand tout va très bien, on commence à se reposer un peu sur ses lauriers. C'est ce qui s'est passé avec David. Quand est-ce qu'il est tombé, David? Quand il était au combat?
Pas du tout.
Il est indispensable pour toi que tu passes par ce chemin-là. Le succès fait encore autre chose. Le succès nous rend paresseux. N'est-ce pas vrai? Quand tout va très bien, on commence à se reposer un peu sur ses lauriers. C'est ce qui s'est passé avec David. Quand est-ce qu'il est tombé, David? Quand il était au combat?
Pas du tout.
Il est indispensable pour toi que tu passes par ce chemin-là. Le succès fait encore autre chose. Le succès nous rend paresseux. N'est-ce pas vrai? Quand tout va très bien, on commence à se reposer un peu sur ses lauriers. C'est ce qui s'est passé avec David. Quand est-ce qu'il est tombé, David? Quand il était au combat?
Pas du tout.
Il est indispensable pour toi que tu passes par ce chemin-là. Le succès fait encore autre chose. Le succès nous rend paresseux. N'est-ce pas vrai? Quand tout va très bien, on commence à se reposer un peu sur ses lauriers. C'est ce qui s'est passé avec David. Quand est-ce qu'il est tombé, David? Quand il était au combat?
Pas du tout.
Il est indispensable pour toi que tu passes par ce chemin-là. Le succès fait encore autre chose. Le succès nous rend paresseux. N'est-ce pas vrai? Quand tout va très bien, on commence à se reposer un peu sur ses lauriers. C'est ce qui s'est passé avec David. Quand est-ce qu'il est tombé, David? Quand il était au combat?
Pas du tout.
Il est indispensable pour toi que tu passes par ce chemin-là. Le succès fait encore autre chose. Le succès nous rend paresseux. N'est-ce pas vrai?
Quand tout va très bien, on commence à se reposer un peu sur ses lauriers. C'est ce qui s'est passé avec David. Quand est-ce qu'il est tombé, David? Quand il était au combat?
Pas du tout.
Il est indispensable pour toi que tu passes par ce chemin-là. Le succès fait encore autre chose. Le succès nous rend paresseux. N'est-ce pas vrai? Quand tout va très bien, on commence à se reposer un peu sur ses lauriers. C'est ce qui s'est passé avec David. Quand est-ce qu'il est tombé, David? Quand il était au combat?
Pas du tout.